J'en viens donc à la présentation de la conférence du jour. Emma Rothschild, économiste anglaise, qui va venir nous parler de l'Amérique hyperpuissance. Elle est née en 1948 à Londres. Sa formation, c'est Oxford, MA à Oxford, en philosophie, politique et économie, en 67. Ensuite, elle a été étudiante au MIT, Massachusetts Institute of Technology, en économie en 1968, où elle était Kennedy Scholar. Elle est actuellement directeur du Centre pour l'histoire et l'économie à King's College, à Cambridge. Son parcours universitaire et de chercheur l'a amenée en France, vous allez voir. De 78 à 80, elle a été professeure associée de Humanities, de Humanité, je ne sais pas comment traduire, au MIT. En 81-82, elle a été directeur de recherche invitée à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est bien agréable parce que vous allez voir que ça nous donnera une bonne conférence en français. De 79 à 88, elle a été professeure associée de sciences, technologies et sociétés au MIT. Et disons, l'essentiel de sa carrière depuis 88, c'est à King's College, à Cambridge, où elle est depuis 91, directrice du Centre d'histoire et d'économie. Ses publications, je les indique, c'est en anglais, Paradise Lost, The Decline of the Auto Industrial Age, Random House, New York, 73, Paradis perdu, le déclin de l'âge de auto-industriel, je ne sais pas comment le traduire. Les sentiments, en 2001, elle va publier un livre qui, moi, m'intéressera particulièrement en tant que philosophe, et les sentiments Economic Sentiments, Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment, les sentiments économiques, Adam Smith, Condorcet et les Lumières. Et de même, elle annonce apparaître la montée et la chute de l'économie politique historique, the rise and fall of historical political economy. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite elle répondra à vos questions. Merci.
Merci, et je suis très contente d'être ici et de faire partie de ce travail vraiment remarquable en France. Ben, je vais parler de l'Amérique hyperpuissance, la mondialisation en perspective historique. Ben, c'était dans le bâtiment des Archives nationales à Washington, qu'en juillet 1971, le président Richard Nixon inaugura les cérémonies du bicentenaire de la Révolution américaine. Le bâtiment des archives était, disait-il trois jours plus tard, le monument le plus impressionnant de la capitale, avec, et je cite, son sentiment du passé et aussi de ce que la nation incarne. Mais ces grandes colonnes de marbre, je cite toujours, lui inspiraient aussi certaines pensées mélancoliques. Il aimait s'y promener la nuit, dans le souvenir des grands austères piliers des puissances antérieures. Et je cite, « en proie à la décadence qui conduit tôt ou tard une civilisation à sa ruine. Selon lui, je cite toujours, les États-Unis approchent maintenant à ce stade. Je songe à ce qui est advenu de la Grèce et de Rome, et, comme on peut le voir, à ce qui en reste, seulement les piliers. » Presque 30 ans plus tard, l'horizon américain se présente sous un jour remarquablement différent. La place des États-Unis dans le monde, qui n'était plus pour M. Nixon celle d'une prééminence totale, est maintenant jugée assurée. Les États-Unis sont considérés comme la civilisation la plus puissante de l'histoire, et en plus comme une société dont le pouvoir repose sur des fondations d'une solidité qui n'a jamais été égalée. Sa force réside dans ses idées et dans ses produits, dans un monde de communication et de consommation sans précédent, où la mondialisation n'a pas de fin. Les États-Unis sont devenus l'exemple de toute civilisation contemporaine. C'est une affaire entendue. Sous l'effet de la globalisation, le monde s'américanise à la vitesse du vent, comme l'a écrit André Fontaine il y a quelques semaines. M. Nixon était convaincu que les États-Unis resteraient riches et forts pendant leur déclin. Ils se sont vus transformés, par contre, en empire éternel. Cette conférence a pour sujet les États-Unis et l'histoire de la mondialisation. On dépeint souvent la mondialisation comme une circonstance du présent et du futur, comme un phénomène sans passé. Mais l'échange de connaissances, de marchandises, des capitaux, de goûts et d'idées entre des sociétés lointaines qui constituent la mondialisation a caractérisé de nombreuses époques passées, en Asie comme en Europe. C'est ainsi qu'il existe une histoire de la mondialisation, c'est-à-dire des périodes où le commerce et l'investissement à grande échelle géographique connurent une croissance rapide sous l'influence souvent de nouvelles technologies de communication. On a beaucoup parlé de la fin du 19e siècle dans ce contexte. Mais il existe aussi une histoire de l'idée de la mondialisation. L'histoire économique est en partie celle des modes de conception de la vie économique et politique. La notion ou l'idée d'une influence lointaine, d'une communication instantanée, d'un empire universel, tantôt passionnant, tantôt insidieux, a parfois profondément pesé sur l'imagination politique et sur la philosophie politique. Il y a eu des époques, pendant ces trois derniers siècles, où l'on a été séduit un peu partout par une conception mondiale du monde. L'indépendance des États-Unis fut le fruit de l'une de ces époques au milieu du 18e siècle. Je vais parler dans cette conférence des débats autour de l'Organisation mondiale du commerce qui faisait partie des origines idéologiques de la Révolution américaine. Je vais parler aussi de l'influence qu'a eue la Révolution américaine à son tour sur des conceptions de la suprématie mondiale en Angleterre et en France, sur l'empire commercial de la superpuissance anglaise de la fin du 18e siècle et sur l'empire d'influence et d'exemple de la superpuissance française. Il se peut même, ce sera ma conclusion, que ces vieilles conceptions puissent concourir à la mise en perspective de la puissance américaine dans le cadre de la société mondiale actuelle. 1770. La découverte du Nouveau Monde et du Cap de Bonne-Espérance, écrivait l'abbé Raynal dans un des grands best-sellers de l'époque, initia, je cite maintenant, une révolution dans le commerce, dans la puissance des nations, dans les mœurs, l'industrie et le gouvernement de tous les peuples. Par tous les hommes se sont communiqués leurs opinions, leurs lois, leurs usages, leurs maladies, leurs vertus et leurs vices. Les théoriciens de la politique et de l'économie conçurent un intérêt sans bornes pour ce nouveau commerce des connaissances et des identités. L'océan était devenu, pour Adam Smith, une formidable voie de communication vers les diverses nations de la Terre. L'industrie du genre humain avait, je cite, « entièrement changé la face du globe dans son ensemble ». Le citoyen de la métropole pourrait jouir tranquillement, disait Smith, de, je cite, « l'amusement de lire dans ses journaux des récits sur les exploits de ses flottes et de ses armées lointaines ». L'histoire des deux ânes de Raynal fut lue à Zagreb, à Rio de Janeiro, à Philadelphie. Le possesseur de capitaux, écrivit Condorcet en 1776, est quelqu'un qui, par une opération bancaire, devient en un instant anglais, hollandais ou russe. Le négociant, écrivait Smith, et, je cite, « marchand de grains cette année, de vin l'année prochaine, de sucre, de tabac ou de thé l'année d'après. » Le destin économique du monde se concevait comme un tout dans ces débats du 18e siècle. Ainsi, Smith décrit, je cite, « l'ensemble du globe terrestre dont la richesse, la population et le développement sont susceptibles de progressivement s'accroître ou décliner. » Le monde moderne était caractérisé, selon Condorcet, par une effrayante complication d'intérêts qui, pour l'individu, étend en quelque sorte au globe entier sa faculté d'éprouver ou des jouissances ou des privations. Comme c'est le cas aujourd'hui, au XVIIIe siècle, les perspectives d'avenir à l'échelle mondiale se rapportaient de façon frappante à la domination commerciale. Bien plus que dans l'essor du XIXe siècle, le processus de transformation globale semblait une affaire d'intérêts commerciaux privés. Les compagnies et les corporations étaient au cœur des débats sur les relations mondiales. Les polémiques parisiennes de l'époque sur la souveraineté et l'économie marchande, c'était les mots qui étaient utilisés à l'époque, de la Louisiane à la Chine et du Sénégal à la côte de Coromandel, étaient même suivies à Riga. Le philosophe Johann Gottfried Herder, en 1769, aspirait à être en Russie ce que l'abbé Morellet, par ses critiques de la Compagnie française des Indes, était devenu en France. C'est dans ce contexte d'un commerce global et d'un débat global sur ce commerce que la Révolution américaine a été conçue. L'avènement de l'indépendance américaine fut précipité, c'est bien connu, par une succession de réglementations du commerce intérieur et extérieur. La distinction suscita elle-même une intense controverse des colonies britanniques. Le Stamp Act en loi des timbres en 65, Townsend Duties en 67, Tea Act en 73, Boston Port Act en 74. Les profondes interrogations de la philosophie politique révolutionnaire croisaient les questions de la taxe sur la mélasse, de l'affranchissement des vélins, du transbordement du thé. Existait-il différents types de droits, dont certains supérieurs ou antérieurs aux droits édictés par les décisions parlementaires et judiciaires? Existait-il différents types de pouvoirs ou de souveraineté? Le pouvoir de réguler le commerce long cours était-il distinct du pouvoir de réguler les transactions locales? Et le premier avait-il l'autorité sur le second? Le pouvoir des colonies à réguler leur propre commerce local était-il semblable au pouvoir des corporations? La pièce de théâtre la plus spectaculaire du début des années 70, l'épisode de la Boston Tea Party, se déroulait à la confluence au sens propre de deux grands systèmes océaniques de commerce global. Les réglementations des années 60, on est toujours en 1760, frappèrent de nouvelles taxes. Le thé transporté par la Compagnie des Indes, le East India Company anglaise, de la Chine à l'Angleterre et de l'Angleterre vers l'Amérique du Nord. Cela fut la fortune des contrebandiers. Les Américains achetèrent du thé en provenance des Pays-Bas, du Congo, de France, de Lisbonne, tandis que les stocks de la compagnie s'accumulaient dans ses entrepôts londoniens. En 1973, le Parlement britannique, volant au secours de la compagnie, vota le célèbre Tea Act en accordant un drawback des taxes sur le thé de 3 sous par livre. Ce fut le thé de la East India Company, transporté outre-Atlantique depuis les eaux chinoises après avoir transité par Londres, qui arriva dans le port de Boston en décembre 1973. Et c'est celui-là même qu'un groupe de négociants et de publicistes américains déguisés en Indiens précipitait par-dessus bord. Dans les années 70, le commerce du thé constituait un empire mondial d'influence. Je cite Edmund Burke. Le thé, avec les nécessaires relations d'affaires qu'il implique, est peut-être le plus important de tous les éléments de notre puissante sphère commerciale. La Compagnie des Indes disposait de 17 millions de livres de thé, des monstrueuses masses de thé, disait le Premier ministre. Et le marché américain brillait à l'horizon comme une nouvelle terre d'opulence domestique. 3 millions de personnes peuplaient l'Amérique du Nord britannique. Une négociation de Philadelphie écrivait à la direction de la Compagnie des Indes après le vote du Tea Act que ces 3 millions de personnes, dont, je cite, dont un tiers, Obama, boit du thé deux fois par jour, à raison d'une consommation estimée de 5,7 millions de livres par an, on obtient un, et je cite, montant de 712 890 livres sterling, 2 shillings et 6 sous, écrivait-il pour la Compagnie des Indes. Mais les malheureux 3 sous de drawback par livre furent, au dire de Burke, une sottise aux chambres de communes, une sottise qui vous a privé d'un seul coup des profits de l'Est comme de l'Ouest, ainsi qu'elle, je cite, ébranlait les piliers d'un empire commercial qui faisait le tour du globe. Pour les patriotes américains de l'époque, le thé devint une mixture nocive et traîtresse. La, je cite, consommation de toute variété de thé des Indes orientales, selon la formule d'une brochure de la New Hampshire, aura des conséquences fatales pour nous-mêmes et notre postérité. Sous d'autres plumes, ce, je cite, thé odieux expédié par la Compagnie des Indes était la preuve d'un projet politique dans l'intérêt d'une compagnie qui avait obtenu sa prérogative commerciale exclusive par la subornation. Pour la Virginia Association de Thomas Jefferson, le thé devait être tenu pour, je cite, le détestable instrument des souffrances de Boston. Nous le tenons en horreur. Fleux des fleux, ce thé odieux qui nous est envoyé par la Compagnie des Indes est maintenant arrivé sur nos quais, annoncèrent les patriotes de Boston en décembre 1973. La thé des Indes représentait le luxe de l'Asie et la corruption de la consommation domestique. Je cite encore, « Tous les moyens sont opiniâtrement mis en œuvre pour nous avilir avec des produits de luxe étrangers. » Mais il incarnait en outre la subornation politique, la corruption politique. Tandis que le gouverneur du Massachusetts était dépeint dans les mélodrames de Mercy Warren comme, je cite, « rapacieux, bachat de la servie », le peuple était présenté comme refusant, je cite, « de payer les chasseurs de la côte Nabob leur demande hautaine pour l'herbe toxique des Indes ». Le très grand juriste américain Dickinson comparait l'oppression de la compagnie en Amérique à l'expérience d'être, je cite, « dévoré par des rats ». Il conclut, « Mais, Dieu merci, nous ne sommes pas des sepoys, ni des marathas, mais des sujets britanniques ». Les caisses de thé dans le port de Boston se trouvaient au croisement de deux systèmes de régulation politique, dont le thé des Indes s'incarnait deux conceptions différentes de l'organisation du commerce mondial. Pour les révolutionnaires américains, comme pour les philosophes anglais en France et français, chacune de ces conceptions était abominable. Chacune constituait un système d'oppression politique. Comme l'écrivait Adam Smith à propos des réglementations commerciales afférentes à l'Amérique et aux Indes orientale, je cite, « Le monopole est au cœur de leur fonction, mais ce n'est pas le même type de monopole. » Sur le marché américain, les grands empires tentèrent d'exclure les marchands de tous les autres pays. Sur le marché des Indes orientales, ils excluent tous les négociants, à l'exception d'une seule compagnie privilégiée. Dans le système de régulation atlantique, l'oppression prenait la forme d'une application abusive des droits de douane et de régie, assortie d'une coûteuse et répressive entreprise de lutte contre la contrebande. Dans le système de régulation des Indes orientales, on pratiquait l'expropriation dans les pays contrôlés par les compagnies exclusives et la corruption politique au sein même de l'Empire. Les deux systèmes commerciaux exprimaient des approches différentes et concurrentes d'une souveraineté partagée dans une société globale. Pour nombre de révolutionnaires américains, la souveraineté légitime du Parlement britannique, considérée s'appliquer au commerce de tout l'Empire britannique, considéré dans son ensemble. Il était fondé à contrôler les côtes et les océans, et même de taxer les marchandises. la souveraineté des législatures coloniales s'appliquait dans un partage difficile des responsabilités aux modalités et échanges locaux. Le pouvoir était partagé horizontalement au sein du monopole atlantique. Dans le monopole des Indes orientales, le pouvoir était au contraire partagé verticalement, que ce soit au Bengale, sur la côte de Coromandel ou dans les îles aux épices hollandaises, les sociétés commerciales exclusives assumaient toutes les responsabilités liées à la souveraineté, associées avec leur propre pouvoir souverain. En tant que société privée, les compagnies étaient soumises à la souveraineté des couronnes françaises et anglaises ou à la République des Pays-Bas. En Asie, elles étaient elles-mêmes souveraines, dans un partage encore moins aisé, objet de longs débats dans les années 70, les compagnies furent de mauvais marchands et de mauvais souverains. Le pays qui déclara son indépendance le 4 juillet 1976 fut d'abord assimilé à un pur paradis du libre-échange. Thomas Jefferson décrivait, je cite, l'exercice du commerce libre avec toutes les parties du monde comme un droit naturel des colons américains. Le pouvoir illégitime du Parlement, je cite, d'emprisonner en quelque sorte les colonies à l'écart du monde était au cœur des polémiques des patriotes. Depuis des temps immémoriaux, selon une formule du Massachusetts Spy, un journal patriote, le Britannique libre, je cite, a contraint son souvenir à reconnaître son droit au commerce libre, en majuscule. Dans la déclaration d'indépendance même, parmi les pouvoirs usurpés par George III, figurait celui de, je cite, d'isoler notre commerce du reste du monde. Dans le nouveau monde de la Révolution américaine, le commerce devait être une sorte de flux, pour ainsi dire, innocent. On disait que les Américains avaient apporté la richesse à l'Europe. Tout ce qu'ils avaient reçu en retour pour cette infinité de produits fut une infinité de colifichets, disait-ils. À l'avenir, les États indépendants américains continueraient à fournir le monde de produits, mais se passeraient des colifichets. Dans L'Espion, le roman de James Fenimore Cooper sur une famille déchirée pendant les guerres d'indépendance entre les intérêts américains et anglais, les Tories, les loyalistes, s'emploient à boire un excellent madère, à restaurer les porcelaines et à prendre le thé. Le dîner des révolutionnaires est un festival de ce que Cooper appelle la profusion américaine. Une dinde, deux canards, je cite, des foules de pigeons, quelques volées de caille, des bancs entiers de tonche, de perches et autres bécasses. Pour ce pays fraîchement indépendant, le système commercial devait être dépourvu de toute relation avec le politique. Il serait dans notre intérêt de complètement renoncer à l'océan, écrivait Jefferson en 81. Les États-Unis avaient le devoir d'imaginer une position qui soit à la fois pure et commerciale, un empire non politique. En 1976, Condorcet attendait avec impatience le moment où la nouvelle démocratie américaine offrirait... où la nouvelle démocratie américaine offrirait, je cite, l'exemple d'une liberté entière et illimitée de commerce donnée par une grande nation. Cette double vision idyllique de l'Amérique comme exemple pour le monde, mais aussi comme une puissance purement commerciale, était aussi celle de Jefferson et de Washington. Comme Washington l'a évoqué dans son Farewell Address, la politique commerciale américaine devait s'employer à diffuser et diversifier sans heurts les voies du commerce. Il importait d'avoir, je cite, dans le développement de nos relations commerciales, le moins possible de relations politiques avec les pays étrangers. L'Amérique devait, aux yeux du monde, tenir le premier rôle de modèle et d'exemplarité. Je cite, donner au genre humain l'exemple magnanime et inédit d'un peuple en permanence guidé par une justice et une bienveillance élevées. Ainsi Washington. À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis, c'est évident, n'étaient pas déjà un pouvoir mondial. Selon les propres paroles de Washington, c'était, je cite, « dans un avenir proche une grande nation ». Mais l'idée d'un nouveau type d'empire universel, un empire de commerce ou de la civilisation, n'était en aucune manière exclusivement américaine. Deux autres empires aspiraient à ce que le diplomate français Alexandre Hauterive décrit en 1800 comme, je cite, « le sceptre du commerce universel ». Et je suis toujours à la faculté d'intervenir dans les rapports les plus importants de l'organisation sociale, administrative et politique de toutes les nations. Leurs conceptions d'une domination mondiale, c'est-à-dire en France, en Angleterre, étaient profondément influencées dans les deux cas par les idées politiques de la Révolution américaine. La Grande-Bretagne, vers la fin du XVIIIe siècle, était qualifiée par ses ennemis comme par ses propres orateurs d'empire commercial universel. Un avenir infini s'ouvrait au commerce britannique, a déclaré William Pitt devant le Parlement en 1992. Je cite, « La difficulté sera d'imaginer les limites de son développement. » Aucune n'est visible tant que restera à l'étranger un nouveau marché à explorer ou un marché déjà existant à élargir. Ainsi Pitt, 92. Du point de vue de Hauterive, la Grande-Bretagne pourrait être à juste titre suspectée, je cite, d'aspirer à l'empire universel de commerce maritime et ainsi au pouvoir d'ingérence au niveau mondial, jusqu'au cœur des relations entre les ouvriers et les industriels, les ministères des Finances et les contribuables. À l'instar d'autres puissances commerciales, l'Angleterre était un État, je cite, « dont les ressources immenses mais distantes, incertaines et mobiles sont puisées dans un système d'activité qui s'étend sur toute la face de l'univers, qui pénètre partout ». Le nouvel empire commercial, pour ses partisans, se fondait sur des principes scientifiques et éternels. L'aboutissement des institutions anglaises, l'ancienne liberté étant encensée par les révolutionnaires américains, et aussi sur l'ordre, l'idée d'un ordre universel. Le succès commercial qui suivit la perte des colonies américaines fut présenté comme la première étape d'une nouvelle ère glorieuse. La première démonstration parfaite des véritables principes de la richesse des nations. Un ancien gouverneur du Massachusetts, partisan dès les années 60 d'un empire de commerce, comparait l'œuvre de Adam Smith avec les Principia de Newton. Pour James Mill, douter de cet ordre cosmique, ce qu'il appelait cet admirable enchaînement de conséquences dans le grand monde, serait comme si un partisan de l'astronomie ptolémaïque remettait en question Sir Isaac Newton. Pour les détracteurs du commerce anglais, par contre, l'ordre nouveau était au contraire l'aboutissement de l'oppression et de la subversion. Pour Bertrand Barrère, en 1793, l'Angleterre était une nouvelle Carthage qui avait corrompu le monde avec ses monceaux d'or et ses misérables colifichets. On parlait beaucoup de colifichets à l'époque. Je cite Barrère, « Une ridicule anglomanie avait subjugué la France. » Je cite toujours, « Des commis de douane, des ouvriers de métallurgie, des manipulateurs des denrées coloniales, des voituriers, des étoffes de l'Inde, voilà nos maîtres réels. » L'anglomanie en ce temps était vue comme particulièrement spécieuse car elle se fondait sur la mutation des goûts et des modes de pensée, y compris en matière d'institutions. Pour citer l'économiste allemand Adam Müller, qui écrivit quelques années plus tard, une prétendue anglomanie par rapport aux mœurs anglaises, à la langue anglaise et même la constitution britannique a gagné du terrain. Les deux anglomanies, celle des mœurs et celle des marchandises, se renforçaient mutuellement d'une société nouvelle et globale, je cite toujours Adam Müller, qui se développe et s'intensifie de Birmingham à la mer Baltique et de Londres à Madras. L'autre superpuissance dans les années qui suivent qui suivait la Révolution américaine reposait sur des principes plus imposants. L'idée de la France comme modèle ou exemple pour le monde d'un empire virtuel existait bien avant la Révolution américaine, quittant Riga en 1769, le philosophe Herder s'embarqua pour Nantes comme pour une métropole universelle. Je cite Herder. Les philosophes français ont pris le parti de cultiver toute l'Europe et l'univers entier. Et bientôt, nous parlons tous français, écrivait-il. Y a-t-il quelque part où les écrits de Voltaire ne soient pas lus? Dans la nouvelle papier culture, c'est le mot de Herder, la civilisation des, je cite, abrégés, dictionnaires, histoire, vocabulaire, esprit, encyclopédie, s'est étendue, je cite, aux quatre coins de la planète. Le langage de la culture était aussi celle du commerce. Selon Herder, c'était notre opulence et notre système commercial qui avaient transformé le monde en société uniforme et tous les individus en, je cite, « nos semblables ». La magistrature que la France exerce sur l'Europe et le monde, écrivait Joseph de Maistre en 1797, était fondée sur l'esprit de prosélytisme et sur ce qu'il appelait, je cite, « la monarchie de la langue française ». Pour citer à la fin de notre période, c'est-à-dire en 820, le poète italien Giacomo Leopardi écrivait que, je cite, « la tendance de l'esprit moderne est de ramener le monde entier à une seule nation et toutes les nations à un seul individu ». C'était un monde, pour Leopardi, de marché et de bureaux, de commerce allant de Boston à Goa, un monde, je cite toujours, de chiffres, de sciences politiques, économiques et morales, d'encyclopédies portatives et de manuels, dans lequel la, je cite, philosophie de la presse détruisait toute autre pensée. Un monde dans lequel, en outre, pour Leopardi, le langage lui-même était toujours plus uniforme. Par la science et le commerce, je cite, l'universalité et l'influence de la France a transformé toutes les langues civilisées. Elle les a, pour citer Leopardi, francesizzate. L'orthographe, la grammaire, la littérature, tout devenait plus français et plus universel. Même l'allemand, d'après Leopardi, était plein de gallicismi. Existait une sorte, je cite, une sorte de petite langue, un vocabulaire rigoureusement universel, une langue de ce qu'il appelait gallicisme et européisme, qui était devenue, en fait, la première langue de toutes les nations. Mais il y avait bien sûr autre chose. Le destin de la France en tant que superpuissance virtuelle apparaît sur un jour nouveau et grandiose dans la période qui suit la Révolution française. Comme l'écrivait Condorcet, la Révolution américaine eut surtout valeur d'exemple pour l'Europe. Les États-Unis présentaient le spectacle de l'égalité, l'influence de leur exemple, le noble et touchant spectacle que ce noble peuple donne à l'univers. Quelques années plus tard, les Français devaient reprendre à leur compte le discours de l'exemplarité universelle, d'un peuple sur lequel le regard du monde est fixé au sein d'une nouvelle société internationale de journaux, d'encyclopédies et de correspondants à l'étranger. Suivant l'exemple des États-Unis, ils ont donné un grand exemple au nouveau hémisphère, donnons-le à l'univers. C'était le conte de Montmorency au mois d'août 89. La Révolution française, pour Condorcet, a ouvert un immense horizon aux espoirs du genre humain. Pour Emmanuel Kant, grâce à elle, s'ouvrait une perspective sur un futur sans bornes. Le langage du libre-échange et de l'ordre harmonieux des révolutionnaires américains influença, après 1776, la conception anglaise d'un empire commercial pérenne. Celle de la glorieuse illustration américaine, l'exemple d'incarner un exemple, influença la conception française d'un empire des idées. En France comme aux États-Unis, les droits politiques et leur pérennité connurent un sort étroitement lié au développement commercial. Même Barrère, fulminant contre les Anglais, nos ennemis irréconciliables, déclara que, et je cite, « Ce n'est pas assez pour vous d'avoir fondé la République politique. Il vous reste à fonder la politique commerciale, cette langue universelle qui doit amener un jour la paix du monde et le bonheur des hommes. » Le nouveau monde du commerce mondial occupa une place considérable dans les débats ultérieurs sur le Code civil. La puissance du commerce, je cite, ne connaît pas de bornes, pénètre jusqu'aux extrémités du globe et exerce partout une influence libérale et bienfaisante, déclarait le tribun et économiste Charles Ganil en 1801. Pendant les discussions du Code civil. Pour le tribune Carion Nissa, je cite, « La loi est à peu près nulle pour le capital commercial et financier. Le nouveau Code devrait plutôt chercher à promouvoir, je cite, « l'orgueil national, l'amour de la patrie qui a quelque chose d'aveugle et d'immodéré. » Pour Ganil, en revanche, si les lois d'un pays sont bonnes, je cite, « le capitaliste étranger comme le capitaliste national seront attachés à vos gouvernements et à vos lois. » Ainsi, 1801. Même l'empereur à Sainte-Hélène, méditant sur la richesse des nations, il a beaucoup parlé d'Adam Smith, paraît-il, à Sainte-Hélène, pris le parti du système, ce qu'il appelait le système moderne de la liberté de commerce pour tout. Je le cite d'après Lascaz, « Je me suis prononcé pour le commerce libre et j'ai rejeté les compagnies. Le monde du Code Napoléon aurait pu être un magnifique spectacle. » Je cite, « l'unité des codes, celle des principes, des opinions, des sentiments, des vues et des intérêts, où tous les pays, à l'instar de l'État moderne que constituait le royaume de Westphalie, auraient été embrassés dans une monarchie universelle. Reclus dans l'île la plus austère des territoires de la Compagnie des Indes, sous le regard distant de Vishnu, selon les mots de Chateaubriand, l'empereur avait un grand regret de ne pas avoir réussi à aller jusqu'en Amérique. » Mais les vérités de la Révolution rayonnaient encore. Elles devaient être, je cite toujours Lascaz, la foi, la religion et la moralité de toutes les nations. Et l'empereur serait lui-même, je cite, l'étoile de leurs droits. Mais j'ai traité dans cette conférence de l'histoire de la mondialisation et des notions de commerce et d'influence à l'échelle mondiale qui ont tant fasciné une bonne partie de l'Europe entre 1760 et 1830. Comme je l'ai suggéré, les querelles autour de ces notions font partie des origines intellectuelles de la Révolution américaine. Les querelles portant sur les systèmes commerciaux furent à leur tour déterminantes dans les répercussions de la Révolution américaine en Europe. L'idéologie anglaise d'un empire mondial du commerce sans étrave, c'est-à-dire l'idéologie de Pitt, d'une infinité de marchés, retentit des échos de l'indépendance américaine. Il en va de même pour l'idéologie française, la perspective universelle de Condorcet, mais aussi du Code Napoléon, d'une infinité de droits politiques. Ces querelles de l'époque de mondialisation du XVIIIe siècle peuvent aussi, il me semble, éclairer nos préoccupations modernes sur la puissance américaine dans un monde globalisé. Le pouvoir politique et le monopole commercial ne constituent en rien les droits de l'homme, écrivait Edmund Burke en 1783 à propos du droit particulier de la Compagnie des Indes. Je cite, « d'exclure tous les autres sujets de sa majesté du commerce de la moitié du globe. » À l'époque de Microsoft et de America Online, Time Warner, CNN, la relation entre la domination politique et commerciale est encore au cœur des problèmes politiques de la mondialisation. Ce programme a exécuté une opération interdite et doit être interrompu. En anglais, This program has performed an illegal operation and must be closed down. C'est l'un des messages d'erreur du système d'exploitation Windows installé sur des dizaines de millions d'ordinateurs. Cette opération est illégale au regard de la loi de Microsoft et non pas de la loi commune ou de celle des États-Unis. C'est un statut de compagnie dans les termes des débats du XVIIIe siècle et non pas un droit public du royaume. La souveraineté, les principes perpétuels d'incertitude au sein des relations commerciales, le, je cite, déclin dans la désorganisation des nations, la façon dont le système commercial a envahi le système du droit public, je cite, établi par le traité de Westphalie, telles étaient les préoccupations de Haute-Rive en 1800. Ce sont aussi les nôtres aujourd'hui. Alors qu'ils s'employaient à rédiger une constitution, les révolutionnaires américains devaient relever un immense défi. Imaginer un nouveau partage de souveraineté, une philosophie politique pour une vaste république, qui serait plus que ce que James Madison décrivait comme, je cite, une souveraineté au-dessus des souverains, un gouvernement au-dessus des gouvernements, une législation pour la collectivité par opposition aux individus. Il fallait imaginer une philosophie politique pour le nouveau monde du commerce mondial qui exclurait les compromis semi-privés, semi-publics qui ont été proposés par la Chambre des communes en 1774. Je cite, « exiger de la ville de Boston qu'elle indemnise la Compagnie des Indes ». Joschka Fischer déclarait récemment qu'il était fort préoccupé par les débats constitutionnels entre les républicains et les fédéralistes dans les premières années des États-Unis. Les expériences constitutionnelles liées à la mondialisation au tournant du 18e et 19e siècle, l'effort d'imaginer une politique des droits individuels dans un monde où les distances comme le pouvoir étaient énormes, sont d'une actualité qui dépasse largement même le cadre de l'Europe. L'histoire américaine est nourrie du désaveu de l'histoire. Les Américains vivaient dans un monde au mouvement universel, écrivait Tocqueville, et l'idée du progrès était pour eux l'idée du nouveau. Mais nombre des opinions du XVIIIe siècle que j'ai évoquées affleurent encore étrangement dans l'Amérique d'aujourd'hui. Je cite, « Le pouvoir de l'exemple est le plus grand pouvoir de l'Amérique dans le monde. » C'était le vice-président Gore l'autre jour dans un des débats présidentiels. Je continue à citer Gore. Les hommes dans chaque partie du monde considèrent les États-Unis comme une sorte de modèle de leur possible futur. Ils recherchent un, je cite, projet qui les aiderait à nous ressembler. Le pouvoir de l'exemple, ce sentiment océanique au sens de Sigmund Freud, cette sensation d'éternité, le sentiment de quelque chose d'illimité, de démesuré, un lien avec l'univers, a lui-même été un instrument politique dans le nouveau système commercial de la fin du XXe siècle. Pour prendre un exemple souvent débattu dans la nouvelle, pour ainsi dire, société civile mondiale, l'économie alimentaire américaine et mondiale, dont a parlé le professeur Michaud, est un résultat de cet esprit du XVIIIe siècle de commerce et d'influence, d'intérêt et d'exemple. Par exemple, un des projets des années 50 du gouvernement des États-Unis lança un programme destiné à promouvoir, dans l'esprit de la profusion américaine, si chère à James Fenimore Cooper, la consommation de la volaille en Europe. Je cite un document officiel, « Jamais le consommateur européen n'a vu des dindes comme celles des États-Unis. Des centaines de milliers de personnes virent nos poulets, dindes, canards prêts à cuire. » Un autre programme des années 50 aboutit à la création à Rome d'un, je cite, « American Way Supermarket ». La réplique exacte de son modèle américain avec plateau, repas, etc., Un demi-million de personnes vinrent le visiter et le pape Pie XII approuva l'initiative. Je cite un rapport du gouvernement américain. Dans un message spécial où il fit l'éloge du bon exemple moral que donnait le système du self-service. L'empire alimentaire américain pénétra jusqu'au tréfonds de l'empire de la Compagnie des Indes. Au collège chrétien pour jeunes filles de Madras, toujours aux années 50, le Oregon Wheat Commission, je cite, expliquait aux gens le pourquoi et le comment d'une alimentation à base de blé. Un membre indien de l'équipe donnait, je cite, des conférences éloquentes sur ce que faisait du blé le roi des céréales. Mais les États-Unis sont aussi une société imprégnée d'histoire dans un sens plus profond. Car les conceptions politiques que j'ai évoquées, le respect des droits individuels et le rêve d'un commerce purement commercial, la conviction qu'il est possible d'imaginer une souveraineté fondée sur les individus, même dans un vaste monde industrieux et changeant, sont aussi les conceptions de notre temps. Les idées des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, leur conception parfois poétique de la vie politique, perdurent dans les constitutions et les institutions américaines comme dans le reste du monde. Ces institutions changent avec les époques et c'est une part de leur poésie. Le 9e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1791, reconnaît l'existence de droits encore non dénombrés, pouvant avoir dans le futur force de loi. Cela signifie, selon le grand historien américain Bernard Bailyn, que la vie politique est destinée à évoluer, que, je cite, « les droits comme la loi elle-même ne doivent jamais être figés ». Il est extrêmement peu probable que les États-Unis seront un empire éternel. Le critique Philip Fisher a écrit de l'Amérique qu'elle est toujours un nouveau monde, que la dimension abstraite de la vie américaine, sa perpétuelle innovation, sa culture de changement constant de culture, sa vision des individus inscrits dans la dimension d'un succès économique sans fin, qui est aussi celle d'une destruction sans fin, a rendu permanent, je cite, l'idée d'une société jamais révolue. Cette notion de l'éternité est déconcertante. Si tout est toujours nouveau, alors il arrivera des moments où le vieux sera neuf. Si chacun est toujours nouveau, alors chacun est dans une certaine mesure toujours le même. C'était le souci de Tocqueville à propos de l'opinion publique souveraine qui caractérisait la société du 19e siècle, dans laquelle, je cite Tocqueville, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Et si le monde devient toujours plus américain, à la vitesse du vent, dans le mot ironique de André Fontaine, alors l'ancien monde deviendra lui-même un nouveau monde. Même la nouveauté n'est pas entièrement neuve, comme j'ai tenté de le démontrer dans cette conférence. La nouveauté de l'empire commercial britannique décrit par Hauterive, immense, distant, incertain et mobile, ou de la Constitution française décrite par Condorcet, destinée à être constamment réévaluée par une succession infinie d'individus à venir. Mais la vision idyllique de l'abstraction américaine est aussi stimulante. C'est un projet d'innovation démocratique et de similitude universelle. Pour le président Nixon, méditant sur les ruines de la Grèce et de Rome, la suprématie américaine était à son apogée juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais la période de l'après-guerre a apporté d'autres innovations, surtout avec la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces instruments, ces évocations abstraites et universelles des droits égaux propre à tous les individus, ces échos de la Déclaration d'indépendance américaine, de la Déclaration des droits de l'homme française, ces accents optimistiques aspirant à une vaste politique embrassant toute la planète, sont dans l'esprit de l'histoire américaine. En cette année 2000, les États-Unis ne sont pas engagés dans une voie particulièrement constructive en ce qui concerne la réinvention des Nations Unies ou les innovations constitutionnelles à l'échelle mondiale. Mais une telle politique, une politique de la mondialisation, peut apparaître vers la fin de la prééminence américaine comme la meilleure solution et même comme une solution très américaine. Les États-Unis ne seraient alors pas un empire éternel, ils ne seraient que le dernier empire. Merci.
Merci. Je voulais simplement signaler pour ce qui est le 18e et la célèbre histoire du thé, tout ça était quelque chose de très marginal. L'essentiel du 18e était le commerce triangulaire. Je vous rappelle simplement pour ce qui est le 18e. Et pour ce qui est le problème de la suprématie des États-Unis commerciale, il ne faut pas oublier qu'actuellement les États-Unis fonctionnent avec un déficit impressionnant. Ils sont en taux de couverture qui est inférieur à 60%, qu'aucune nation pourrait se permettre et que n'importe quelle autre nation se trouverait en banqueroute avec un tel déficit, avec un tel taux de découverte. On ne peut pas expliquer cela si on ne tient pas compte, madame, et du droit des États-Unis, du privilège plus précisément que détiennent les États-Unis et dont on ne parle pas, qui est celui d'émettre la monnaie internationale et de pouvoir acheter les biens du monde avec du simple papier. Voilà. Merci.
Il m'a présenté comme économiste. J'ai été économiste il y a 20 ans. Je suis maintenant historien, mais je vais essayer de... Non, mais vous savez, le fait d'avoir un déficit, c'est pas forcément ne pas avoir un empire. Et ça a beaucoup changé, ça change tout le temps. Pour les hommes politiques américains actuellement, c'est une façon d'aider le monde. Et c'est pour ça que j'étais si passionnée par les histoires du 18e siècle, parce que c'est à peu près le même discours d'un ordre harmonieux qui évolue tout le temps qu'ont adopté les Anglais à l'époque de Pitt, à la fin du 18e siècle. Et je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, quand même, l'hyperpuissance de l'Angleterre n'a pas duré, l'hyperpuissance de la France n'a peut-être pas duré de la même façon. Et à l'intérieur de leur propre discours d'ordre commercial toujours instable, toujours incertaine, on peut attendre à ce que les choses vont changer assez vite. Et c'est un peu pour ça que j'ai parlé de cette idée à la fin, de cette idée du nouveau, parce que l'idée du nouveau ne favorise pas toujours le même pays.
Monsieur, oui.
Vous m'excuserez, mais ma question fera peut-être référence à la culture française. C'est Paul Valéry qui a dit que les civilisations sont mortelles. On sait maintenant que les civilisations sont mortelles. Mais voici ma question. Vous n'avez pas parlé de l'auteur de l'Esprit des lois, des lettres persanes, et qui a écrit, je crois, aussi un article pour l'encyclopédie sur le goût. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Montesquieu ?
Non.
Montesquieu.
Oui.
Quelle est la place de Montesquieu ?
Oui. Non, mais j'aurais bien voulu parler de Montesquieu, parce que ces débats autour d'un monde nouveau, d'une mondialisation de la pensée, pendant les années 60-50, 60, les années 60, 50, 60, 70 du 18e siècle, a bien commencé d'une certaine façon avec Montesquieu. On pourrait parler de plusieurs. En plus, Turgot disait des choses très intéressantes là-dessus. Mais ce que j'ai voulu évoquer, c'était un climat de débat autour de ces questions d'influence lointaine, de commerce, de transport, de communication, et même sur les problèmes de fiscalité, comment taxer les capitaux. Et j'ai voulu évoquer ce moment pour dire que c'est quand même pas d'aujourd'hui les débats sur la globalisation, et que même d'une certaine façon, cette période au XVIIIe siècle est plus intéressante pour nous que la période fin du XIXe siècle de mondialisation, pour ainsi dire, dans un régime tout à fait impérialiste. C'est au début des à l'époque dont je parlais, c'était surtout les compagnies. Le mot corporation ne fonctionne pas très bien parce que c'est un mot archaïque, c'était même un peu archaïque à l'époque, mais on utilisait ce mot corporation pour parler de la puissance des compagnies privées exclusives. Et ça il me semble que c'est assez intéressant pour les débats actuels sur la souveraineté et sur l'économie marchande.
Un monsieur ici, d'abord.
Oui. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, me semble-t-il, c'est qu'il y a un monopole total des États-Unis sur Internet. Ce qu'il y a de nouveau, peut-être, c'est le dollar qui est une monnaie mondiale. L'anglais est la seule langue internationale maintenant. Et d'une certaine façon, ne pensez-vous pas que nous sommes déjà américains ?
Ah non, l'université de tous les savoirs, ça ne pourrait pas se passer aux États-Unis quand même. Non. Et en ce qui concerne la langue, j'ai voulu un peu dans la conférence insister sur le discours à propos du français au début du 19e siècle, parce qu'on avait tellement peur de la domination universelle de la langue française, et j'aurais pu citer Leopardi pendant des heures, et ce n'était pas uniquement lui. En ce qui concerne l'Internet, moi, je ne sais pas, mais le propre de l'Internet, c'est que ça évolue tout le temps. On est un peu moins anglophone sur l'Internet qu'on ne l'était il y a 2 ans, il me semble. Et moi, je crois que même les ingénieurs de l'Internet n'ont pas beaucoup d'idées de ce que ce serait d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Et c'est aussi cette question de nouveauté qui n'est pas uniquement américaine, mais ça, bien sûr, ça change nos modes de vie, nos modes de pensée.
Madame en haut.
Bonjour, madame. Vous avez dit en terminant que les États-Unis étaient peut-être pensaient qu'ils étaient le dernier empire. Je voulais savoir si les royaumes persistants, notamment le royaume britannique, se croient éternels encore. S'il vous plaît, merci.
C'est intéressant. J'ai voulu terminer en parlant des Nations Unies. Et même si le Royaume-Uni a été très involué, très active dans la formation des Nations Unies dans les années 40, je crois que c'est surtout ces deux moments, déclaration d'indépendance américaine, déclaration des droits de l'homme française, qui ont tant résonné dans ces discours de la fondation des États-Unis. Ce que j'ai voulu dire en parlant de Joschka Fischer et la révolution constitutionnelle au niveau de l'Europe qu'il a évoqué dans son débat. C'était dans son débat avec Chevènement pendant l'été. J'ai voulu insister un peu sur le fait qu'on va avoir quand même besoin d'une révolution constitutionnelle au niveau du monde. Il faut, à mon avis, essayer de prendre au sérieux l'avenir des États-Unis. Et je ne veux pas parler d'un État fédéraliste au niveau du monde entier, mais si moi j'essaie d'imaginer cette salle de conférence d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, je suis convaincue qu'on aura commencé à discuter sérieusement les questions de séparation de pouvoir, de division horizontale et verticale, de souveraineté, des relations privées-publiques qui étaient tellement importantes pendant la Révolution américaine et qu'on a quand même un devoir de repenser au niveau beaucoup plus grand maintenant ou dans le siècle à venir. Et pour le Royaume-Uni, ce n'est pas notre langue anglaise qui fait tant de bruit dans le monde.
Monsieur en haut.
Je voulais faire allusion, en fait, je pense que si, pour faire allusion à l'hyperpuissance, à la puissance française au cours de l'histoire, on aurait pu parler de la colonisation et aussi du commerce triangulaire de l'esclavage. Et est-ce que, par exemple, pour parler de la puissance américaine, on ne pourrait pas souligner aussi le rôle important de l'esclavagisme et de l'extermination des Indiens aussi ?
Vous pouvez, oui.
Oui, mais on aurait des problèmes. Est-ce que dans les problèmes d'hyperpuissance, il ne faut pas envisager aussi la colonisation, les commerces des esclaves,
oui.
Etc.
Oui, absolument. C'est intéressant. Dans la richesse des nations, Adam Smith commente le passage que j'ai cité de l'abbé Reynal sur cette espèce d'idylle d'influence, de commerce mondial, de rapport entre tous les peuples. Il dit que pour les peuples indigènes, soit des Indes orientales, soit des Indes occidentales, c'était plutôt catastrophal. Et je crois que Reynal n'a pas assez insisté sur ce côté. Bien sûr, les Américains, Jefferson compris, avaient une conception d'une république, une petite république, qu'ils nommaient d'ailleurs comme vaste république de quelques millions de personnes, qui était pour les hommes blancs. Et tout le drame de l'histoire américaine, d'une certaine façon, c'est de dépasser cette conception d'une république. Mais ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que ce même effort de penser un processus politique qui n'est pas uniquement pour les hommes de propriété, les hommes blancs, qui a été tellement difficile ici en France à la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi quelque chose qu'on a besoin d'essayer de le repenser maintenant à l'égard des relations entre les nations, et non pas uniquement entre les nations, mais entre les individus dans les différentes parties du monde. C'est-à-dire de penser une politique des droits dans un monde globalisé qui serait une politique globale au vrai sens du mot.
Monsieur.
Ce que vous venez de dire, que finalement il y a deux discours. D'un côté, les États-Unis sont considérés comme une superpuissance, et ça c'est indiscutable, mais d'un autre côté on parle de mondialisation. Et tout à l'heure quelqu'un est intervenu pour dire que l'anglais devenait une langue, la langue unique, universelle, qu'il y avait Internet, Donc il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'il y a mondialisation, et il y a beaucoup d'arguments aussi pour dire que l'Amérique est quand même une superpuissance. Mais les deux choses s'opposent un peu. Je pense à ceci, par exemple, à l'hémorragie des cerveaux, ce qu'on appelle l'hémorragie des cerveaux, c'est-à-dire des scientifiques, entre autres, qui partent de France, notamment, pour aller aux États-Unis, et on ne sait plus très bien s'ils sont américains ou s'ils sont français. Et donc, cette conception des nations n'est pas une conception qui, très rapidement, va tendre à perdre de sa valeur. D'autre part, on a parlé, alors ça c'est une autre question, on a parlé de la crise, on a parlé des déficits américains qui sont effectivement considérables. Et ça me fait penser quand même à ce qui a entraîné le krach de 29, à savoir que les gens empruntaient, et ça aboutit au krach. Est-ce qu'il n'y aurait pas le même phénomène à l'échelon mondial du fait précisément du déficit américain ?
Oui, sur ce qui va se passer dans les marchés mondiaux, je ne me sens pas du tout un expert, mais bien sûr, si on pense à ces époques, non seulement de globalisation, de mondialisation dans le sens strictement économique du passé, c'est-à-dire d'expansion dans les échanges internationaux, mais aussi dans le sens de l'idée de la mondialisation, c'est-à-dire, pour ainsi dire, l'histoire intellectuelle de la mondialisation. On ne pourrait pas trouver d'épisode qui ne s'est pas terminé d'une façon ou de l'autre, soit dans un crash, soit dans soit dans une guerre ou quelque chose. Et je crois que l'histoire de la fin des époques antérieures de mondialisation est en soi quelque chose d'assez intéressant. Mais la première question, c'était...
C'était la contradiction entre l'impérialisme, la puissance d'une nation et puis les facteurs de dissolution des nations.
Ah oui, oui, là... Oui, je crois que c'est quelque chose de très important que vous venez de dire, parce que le fait d'être une puissance globale change les gens d'une certaine façon. Moi, si je pense encore une fois au débat autour de les débats d'il y a à peu près exactement 200 ans, je crois que l'idée de pouvoir avoir des identités multiples était très importante. Et c'était une période qui était très ouverte. On avait des horizons énormes, pour les gens qui étaient assez riches, pour femmes et hommes aussi, dans ce cas. Ce débat autour du code civil entre Ganil et Karyanisa, où Karyanisa disait qu'il voulait avoir une sorte d'orgueil national qui ne s'est pas réfléchi, qui était exclusif, qui était irrationnel d'une certaine façon. Ça c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Pendant le 19e siècle. Et je crois que si on pourrait retrouver cette possibilité d'avoir soit une identité culturelle anglaise, une identité de vivre en France, de travailler sur les États-Unis, d'utiliser des produits japonais, de voyager. Et c'était quelque chose dont parlait beaucoup Condorcet, par exemple. Et il y a une histoire assez passionnante des débuts de racisme scientifique pendant les années 1820. Et ce serait bien si on pourrait, dans cette période de dissolution de l'Empire américain que je vois pour les années à venir, d'une certaine façon, sous l'effet précisément de la nouveauté en principe,
pour ainsi dire, si on pourrait retrouver cette multiplicité d'identités, même d'identités politiques, ça, ce serait quelque chose de très important en soi et de très important pour la possibilité d'une vraie politique de la mondialisation.
On va prendre une dernière question parce que il faut que vous reconnaissiez l'effort de Mme Rothschild pour répondre directement en français. Merci.
Vous nous avez parlé des différentes constitutions, États-Unis, Angleterre, France, enfin Grande-Bretagne, France. Et dans aucune à ma connaissance, enfin ça je reprends Big One, qui a dit on ne parle de shareholders, d'actionnaires. Et ça, est-ce que vous pourriez le confirmer, puisque ça change tout le temps, puisque soi-disant ça évolue très vite, surtout aux États-Unis. Et que pensez-vous en tant qu'historienne de cette hypocrisie des pouvoirs politiques au sujet de la corruption généralisée des économies marchandes qui n'en parlent pratiquement jamais?
Mais je vais terminer par raconter quelque chose que j'ai supprimé dans l'intérêt du temps, parce que c'est tout à fait à propos de ça. Ce gouverneur Basho, qu'on appelait une espèce de pacha de Massachusetts à l'époque de la révolution, juste avant la révolution américaine, incarna les multiples identités tant politiques que commerciales propres à l'économie mercantile globale, alors qu'il était responsable de la mise en application des droits de régie. La plus grande partie de sa fortune personnelle était investie dans le capital de la Compagnie des Indes. Son salaire officiel était financé par les revenus des taxes sur le thé. Son fils et ses cousins étaient les principaux consignataires du funeste thé. Il mourut en exil presque dans l'ombre du Parlement britannique. C'est pour ça aussi que je trouve les querelles du XVIIIe siècle tellement passionnantes, parce que c'est tout tourné autour de la corruption, soit économique, soit politique, et sur les rapports entre les deux espèces de corruption. Et c'est pour ça que, en tant qu'historienne, j'aimerais bien qu'on remonte un peu dans cette période.